Vous écoutez
RMC. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Gabriel Attal.
Bonjour Apolline de Malherbe.
Vous êtes le ministre, le nouveau ministre de l'Éducation nationale. Il y a beaucoup de choses à voir avec vous sur tout ce que vous avez annoncé pour cette rentrée scolaire, sur les changements que ça va entraîner pour les élèves, pour les professeurs. On va d'ailleurs faire le bilan de cette rentrée d'hier. Mais est-ce que vous avez réalisé au fond, et j'y réfléchissais en préparant cette interview, que vous avez comme flingué en vol le et en même temps?
C'est-à-dire
que jusqu'alors, et vous n'êtes pas le premier ministre de l'Éducation que j'ai en face de moi et que je dois interviewer, j'ai interviewé vos deux prédécesseurs, c'est-à-dire Jean-Michel Blanquer et Pap Ndiaye. Et sur des questions comme l'abaya, honnêtement, ça a louvoyé. On a compris que Jean-Michel Blanquer n'était pas pour, mais il l'a jamais complètement 100% assumé. Pap Ndiaye, quand je l'interrogeais, avait l'air presque d'ironiser, de pas comprendre pourquoi on lui posait la question. En tout cas, estimait que ça n'était pas son rôle de trancher. Vous êtes arrivé. Et ce « et en même temps », vous avez dit « non, ça suffit ».
Moi, je crois que la laïcité, elle doit s'appliquer de manière pleine et entière. Et la laïcité, je pense, rassemble beaucoup de Français. L'école, elle est gratuite, elle est pour tout le monde et elle est laïque. Et moi, je veux pas d'une école où on pourrait identifier la religion des élèves en les regardant. Je veux pas d'une école où il y aurait une forme de pression sur certains ou certaines, en l'occurrence, pour s'habiller d'une certaine façon, parce qu'on verrait tout d'un coup un vêtement qui manifeste une appartenance religieuse se développer dans cette école.
Oui, mais,
donc oui,
mais
j'assume d'avoir pris cette décision et de faire appliquer cette règle, mais encore une fois, qui n'est que l'application, à mon sens, et au sens de beaucoup que je vois sur les plateaux, beaucoup d'experts, beaucoup de juristes, de la loi de 2004, qui proscrit dans l'enceinte des établissements scolaires des signes manifestant ostensiblement une appartenance religieuse.
Et de fait, les Français vous donnent plutôt raison. Dans tous les sondages qui ont été faits depuis votre annonce, c'est un succès d'opinion, hein. Les Français sont d'accord avec vous. Plus de 70% des Français se disent favorables à cette interdiction de l'abaya, y compris parmi les électeurs de la France Insoumise, y compris parmi les professeurs. Mais arrivez à vous, après Pap Ndiaye, après Jean-Michel Blanquer, moi j'ai quand même une question, c'est il pense quoi le président ?
Il a eu l'occasion de le dire, il l'a dit la semaine dernière, il l'a redit hier soir, et surtout, il a fait un discours très important sur la question de la laïcité au Mureaux, vous vous en souvenez, il y a quelques années.
Oui, mais ensuite, il a nommé Pap Ndiaye avant de vous nommer vous. Enfin, j'aimerais savoir quel est le fil rouge.
Bah, écoutez, moi, ce que je peux vous dire, c'est que je crois que tous mes prédécesseurs étaient attachés, évidemment, au respect de la laïcité. Ensuite, il y a un sujet qui est compliqué sur la question de l'abaya, qui est un phénomène, on va dire, plutôt récent, qui a quelques années, qui s'est développé assez rapidement dans nos établissements scolaires, 120% d'augmentation sur un an. Et voilà, moi j'ai été nommé à ce poste, je suis pas là pour donner des leçons à mes prédécesseurs, j'ai été nommé à ce poste et j'ai considéré qu'avant cette première rentrée dans mes nouvelles fonctions de ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse, je devais à l'école de la République, mais aussi aux chefs d'établissement, aux principaux, principaux adjoints, proviseurs, proviseurs adjoints, CPE, une clarté sur la règle pour qu'il puisse...
Et vous allez nous donner dans un instant d'ailleurs le bilan de la journée d'hier précisément sur ce point. Mais finalement, si je relis effectivement depuis le début d'Emmanuel Macron à l'Élysée, je me dis au fond, qu'est-ce qui nous dit que le prochain ministre ne sera pas à nouveau pour l'abaya? C'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de changements de doctrine.
Personne n'a été pour l'abaya. Et mon prédécesseur,
ou en tout cas estimé que ce n'était pas un sujet.
Non, je crois pas que c'est ça. Je pense que ce qui avait été décidé, c'est de renvoyer l'appréciation de la situation et de la règle au niveau
c'était
local, au chef d'établissement.
En tout cas, pour le ministre, c'était pas un sujet.
Voilà. Très sincèrement, moi, je jette la pierre à personne. C'est un sujet qui est difficile. Moi, je suis comptable de ce que je décide moi et de ce que je fais appliquer moi. Et donc, j'ai pris cette décision et je l'assume. Encore une fois.
Et je vous pose une dernière question.
Les Français
est-ce
sont
que le président de la République lui-même en a l'intime conviction, ou est-ce que
bien
c'est
sûr.
Vous qui êtes arrivé et qui lui avez tordu le bras?
Non, bien sûr, il en a l'intime conviction. On a échangé à plusieurs reprises sur ce sujet. Et évidemment, vous l'avez vu dans ses déclarations, il est tout à fait en soutien de cette décision. Mais encore une fois, vous l'avez dit, qui rassemble aussi beaucoup de Français, et y compris politiquement. J'ai entendu Fabien Roussel, le chef du Parti communiste. J'ai entendu des responsables socialistes, Jérôme Guedj, le maire de Montpellier, Michael Delafosse, Carole Delga, qui se sont exprimés aussi en faveur de la décision que j'ai prise. Donc, on voit bien que la laïcité, c'est une valeur fondatrice de l'école, de la République.
Comment
et elle rassemble très largement les Français.
Comment ça s'est passé hier, concrètement, à l'entrée des établissements?
Vous savez que la grande priorité que j'avais donnée, elle était au dialogue et à la pédagogie. Moi, je suis pour, évidemment, l'application des règles dans l'école, mais une règle, elle doit être expliquée. Et j'oublie pas que derrière l'abaya, le camis, il y a des jeunes filles et il y a des jeunes garçons à qui il faut parler comme des jeunes adultes, à qui il faut expliquer les choses. Il y a des familles aussi. Donc, ce que j'avais demandé à mes équipes, aux chefs d'établissement, à leurs adjoints, c'est d'être dans une explication de la règle pour celles et ceux, celles surtout, qui ne l'auraient pas forcément comprise et qui se seraient présentées à l'école.
Est-ce que ces situations se sont en effet présentées? Ou est-ce que d'elles-mêmes, les jeunes filles l'avaient enlevé avant même de se présenter à l'entrée de l'école?
Il y a un certain nombre de personnes, de jeunes filles qui se sont présentées en disant « Moi, j'avais l'habitude de porter l'abaya l'année dernière. Là, j'ai entendu la nouvelle règle, donc je ne me présente pas en abaya. » C'est présenté beaucoup. Et puis ensuite, il y a des jeunes filles qui se sont présentées en abaya dans leur établissement scolaire. Hier, je crois que c'est un peu moins de 300, 298 personnes. Il y a eu ensuite toute cette phase d'explication, de pédagogie, de dialogue, et une très grande majorité se sont conformées à la règle. Et c'est ça pour moi qui est très important. Une règle, quand elle est expliquée, elle est appliquée.
Vous avez des chiffres très précis, donc j'imagine que vous en avez aussi sur ceux qui ont refusé cette règle. 298 personnes, nous annoncez-vous ce matin, qui se sont présentées malgré tout en abaya hier. Combien ont accepté de l'enlever? Combien ont refusé?
Je disais qu'une grande majorité avait accepté de l'enlever. Je crois que c'est 67 personnes qui n'ont pas accepté de se conformer à la règle. Elles sont rentrées chez elles. Et ensuite, dans les prochains jours, elles reviendront puisqu'elles doivent être scolarisées. Et puis, on verra si elles se sont conformées à la règle ou pas. Et sinon, il y aura un nouveau dialogue. Et c'est comme ça qu'on va continuer à avancer. Je précise à Pauline de Malherbe que hier, pour les lycées, dans la plupart des cas, c'est essentiellement les secondes qui faisaient leur rentrée. Donc aujourd'hui, demain, il va y avoir les premières, les terminales. Il peut y avoir d'autres situations qui se présenteront, surtout pour des personnes qui étaient déjà scolarisées au lycée l'année dernière et qui donc avaient pu prendre cette habitude. Parce qu'en seconde, c'est des personnes qui étaient au collège l'an dernier. Donc évidemment, mes services vont rester mobilisés pour, encore une fois, expliquer les choses. On a envoyé dans les établissements pour lesquels on sait que ces situations se présentent, des personnels formés. Les équipes valeurs de la République, des rectorats, des formateurs laïcité.
Malgré ce dialogue, vous nous dites qu'il y a donc 67 jeunes filles qui ne sont pas rentrées à l'école hier, au collège en l'occurrence. Elles seront convoquées dans les jours qui viennent. Quelle est la procédure?
Elles se sont vues remettre leur emploi du temps. Elles sont rentrées chez elles. Elles se représenteront au lycée pour aller en cours. Et on verra si, entre-temps, elles se sont conformées ou pas à la règle. On leur a remis aussi une lettre que j'ai adressée moi-même, que j'ai signée moi-même à destination de leur famille pour expliquer les choses, pour expliquer que la laïcité, c'est pas une contrainte, c'est une liberté.
Vous vous êtes engagé personnellement. Gabriel Attal, vous avez signé ces lettres. Oui. Ces lettres sont entre leurs mains, elles les ont rapportées à la maison, elles les ont fait lire à leurs parents.
Mais moi, je pense que ma responsabilité, c'est d'être aux côtés de mes agents et d'assumer la responsabilité de la décision que j'ai prise. Donc oui, j'ai souhaité qu'il y ait une lettre signée de ma main, celle du ministre, à destination des familles pour leur expliquer les choses. Leur expliquer que l'école, elle ne stigmatise personne. Que leur enfant a sa place dans l'école de la République. Et que précisément, pour que chacun puisse avoir sa place dans l'école de la République, il faut que les règles soient appliquées et notamment les règles de la laïcité.
Gabriel Attal, vous personnellement, vous vous engagez effectivement sur ce sujet, vous en faites quasiment un combat personnel, ça en fait, en tout cas, vous vous engagez, y compris jusqu'à signer de votre main ces courriers. Est-ce que ça vous coûte? C'est-à-dire, est-ce que vous vous sentez aujourd'hui la cible quand vous entendez « mais on stigmatise, mais c'est islamophobe » Est-ce que vous vous êtes senti ciblé par ces critiques?
Je pense que ceux qui sont en première ligne, c'est avant tout mes équipes sur le terrain. C'est les chefs d'établissement, c'est leurs adjoints, c'est leurs équipes, c'est les enseignants qui eux-mêmes, évidemment, sont confrontés à ces situations et doivent expliquer les choses, faire de la pédagogie.
Vous n'avez pas été ciblé.
Non, mais je suis pas là pour parler de moi. Moi, encore une fois, l'important, c'est d'expliquer les choses, d'expliquer la règle et surtout d'être toujours aux côtés de mes personnels, d'être aux côtés des enseignants, d'être aux côtés de celles et ceux qui font vivre l'école et qui transmettent les valeurs de la République.
Un dernier mot encore là-dessus. Vous avez une précision géographique à nous apporter? C'est-à-dire c'est 67, d'abord c'est 298 personnes qui se sont présentées avec un abaya et c'est 67 qui ont refusé de l'enlever. C'est où?
Non, il n'y a pas de concentration spécifique sur certains territoires.
Il n'y a pas de territoire particulier, c'est partout?
Non, c'est plutôt dans des grandes autour de grandes agglomérations et de grandes métropoles. Mais encore une fois, il y a pu y avoir des situations dans à peu près toutes les académies l'an dernier. Vous savez, dimanche, pour préparer la rentrée...
Il n'y a pas d'académie qui a été épargnée par ces questions-là?
Pour préparer la rentrée dimanche, j'ai fait un point en visioconférence avec l'ensemble de mes rectrices et mes recteurs. Et on a parlé de ce qui s'était passé l'année dernière. Et dans toutes les académies, à des degrés différents.
Mais ça représente combien d'établissements, les 67? C'est dans 67, c'est une par établissement ou c'est quelques établissements par
C'est, je pense, moins d'une centaine d'établissements. Voilà.
Gabriel Attal, l'uniforme ou la tenue unique? Emmanuel Macron hier s'est dit favorable à des expérimentations sur la tenue unique. D'abord, c'est quoi la différence entre uniforme et tenue unique?
Uniforme, c'est quand vous avez un vêtement ad hoc qui est produit pour l'école. Tenue unique, c'est quand vous avez des règles qui sont fixées. Ça existe dans certains établissements outre-mer, notamment aux Antilles ou en Guyane. Vous avez, par exemple, des règles qui disent votre enfant doit venir vêtu, je donne un exemple, mais d'un jean et d'un t-shirt de telle couleur. Voilà.
C'est le même exemple qu'a utilisé d'ailleurs le président de la République hier.
Ça existe donc, dans quelques établissements
jean, t-shirt, outre-mer. Ça pourrait être l'idée.
Moi, ce que j'ai dit sur ce sujet-là, c'est que je ne sais pas si l'uniforme est une solution un peu miracle qui permettrait de régler les problèmes de harcèlement, d'inégalité sociale, de laïcité et autres. Ce que je sais, c'est que c'est un débat qui est présent dans le pays depuis un certain temps. Et moi, je pense qu'un débat, il faut toujours le faire progresser.
Là encore, je précise d'ailleurs que votre prédécesseur n'y était pas favorable. Là aussi, c'est un changement de doctrine. Bon,
en tout cas, moi, je suis comptable encore une fois de ma ligne. Je pense que ce qui permet de faire progresser un débat, c'est de passer par des expérimentations, de tester les choses et de regarder ensuite si ça a un impact ou pas. Et donc, ce que j'ai annoncé, c'est qu'il y a un certain nombre d'élus ou d'établissements qui ont manifesté ces dernières semaines leur souhait de pouvoir expérimenter l'uniforme ou la tenue scolaire unique. Je les invite à se rapprocher de mes services.
Il y a un certain nombre. Vous avez d'ailleurs eu au téléphone Éric Ciotti qui a dit qu'il, oui, qu'il y était favorable. Vous avez eu peut-être aussi Robert Ménard, non ?
Non, pas eu.
Parce que lui, il s'est dit très vite favorable pour Béziers. Et il y a Martine Vassal, la présidente du département des Bouches-du-Rhône, qui demande à ce qu'éventuellement son département puisse être un département pilote.
Il y a aussi des maires d'autres communes en France qui se sont.
C'est que
déjà...
des gens de droite, hein.
Non, mais je pense pas qu'il y ait que des gens de droite, comme vous dites, qui soient.
Enfin, là, en l'occurrence, ceux-là sont tous étiquetés.
Il y a un certain nombre de maires qui se sont déjà manifestés auprès de mes services. Moi, ce que je dis, manifestez-vous auprès de mes services. Et ensuite, à l'automne, je présenterai des modalités et un calendrier d'expérimentation dans un certain nombre d'établissements. Il faut qu'on se fixe un calendrier, il faut qu'on fixe aussi une méthode d'évaluation. C'est très important quand on expérimente d'être d'accord sur la manière dont on va évaluer les effets de l'expérimentation pour se poser ensuite la question de savoir si on généralise.
Et ça reste la question aussi de qui paye. C'est-à-dire que si c'est jean, t-shirt, bah c'est les parents. Si c'est uniforme, ça peut aussi être avec l'aide de l'établissement ou de l'éducation nationale.
C'est pour ça que je pense qu'il faut tester différentes organisations et regarder ce qui fonctionne ou pas.
Jean, t-shirt, ça pourrait être pour garçons et filles.
Encore une fois, moi, je préempte pas l'expérimentation qui sera faite. Je pense qu'on peut tester un certain nombre de solutions.
Quand je vous pose la question et quand je vous dis que votre prédécesseur n'y était pas favorable, c'est pas pour dire que vous êtes différent. C'est pour poser la question de la colonne vertébrale du président de la République.
Par ailleurs,
c'est ça qui m'intéresse.
Non, mais je pense que c'est un sujet sur l'uniforme. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont partagées. Moi-même, à titre personnel, j'avoue être partagé sur cette question. Donc moi, je suis favorable à l'expérimentation. Et j'y suis favorable notamment parce que je pense que ça me permettra et nous permettra aussi, pour un certain nombre, de nous forger une opinion.
Le choc des savoirs, c'est quoi ?
Le choc des savoirs, c'est dire que on a besoin de renforcer dans notre pays ce qu'on appelle les savoirs fondamentaux. Les savoirs fondamentaux, c'est les savoirs qui permettent tous les autres. C'est le français et les mathématiques. Si vous maîtrisez pas la lecture, l'écriture, vous aurez du mal en histoire, géographie ou dans d'autres matières. Si vous maîtrisez pas les mathématiques, si vous savez pas compter, vous aurez du mal en physique, chimie et dans d'autres matières. Qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui ? Un élève sur trois qui rentre en sixième ne maîtrise pas pleinement les fondamentaux. Un élève sur trois qui rentre en sixième a des difficultés de lecture, d'écriture ou de calcul. Et donc oui, j'ai dit que je voulais un choc des savoirs fondamentaux, c'est-à-dire mettre le paquet, renforcer notre action sur ces savoirs fondamentaux, notamment en primaire.
Il y a cette tribune signée aujourd'hui dans le journal Le Monde par un grand nombre de personnalités. Il y a Jamel Debbouze, il y a Agnès Jaoui, il y a des acteurs qui disent « Attention, nos enfants ne savent plus lire et ne savent plus écrire au sens enchaîné des mots avec une réflexion. Oui. » Ils vous alertent, ils vous demandent notamment qu'il y ait une demi-heure d'écriture par jour pour les enfants. Est-ce que vous y êtes favorable ?
Alors d'abord, moi je suis évidemment favorable à ce qu'on renforce l'apprentissage de la lecture et de l'écriture en primaire. Je vous le disais, qu'est-ce qu'on fait en cette rentrée ? D'abord, on a un nouveau plan de formation pour les institutrices, les instituteurs en maternelle, pour l'initiation à la lecture et à l'écriture.
Deuxième, ça veut dire initier avant le CP, hein ?
Exactement. Donner les premières bases qui va permettre ensuite au CP d'apprendre. Ensuite, au CP, ce qu'on dit, c'est qu'il faut au moins 2 heures par jour d'activité autour de la lecture. Ce qu'on dit ensuite, c'est qu'en CM1 et en CM2, il faudra qu'il y ait chaque semaine 2 textes longs, autour de 1000 mots, qui seront lus chaque semaine au moins par les élèves. Et on va continuer à renforcer ces actions, encore une fois, en faveur de la lecture et de l'écriture. Donc ils ont tout à fait raison de faire cette tribune. D'ailleurs, je les mobiliserai comme ils sont engagés sur cette question-là pour qu'ils puissent eux aussi se faire les ambassadeurs de cette question-là.
Intervenir. Vous dites qu'un Jamel Debbouze, par exemple, s'il peut s'adresser directement aux élèves,
bien sûr,
tant qu'à faire,
dans les établissements scolaires. Et d'ailleurs, parce que je le disais à l'instant, on a encore aujourd'hui au collège beaucoup d'élèves qui ne maîtrisent pas ces fondamentaux. Je pense que c'est important de pouvoir aussi aller intervenir.
Il y a aussi cette question du numérique. Est-ce que c'est pas un gadget dont aujourd'hui on s'aperçoit qu'il a éloigné les enfants de la lecture? Je pense à l'exemple de la Suède. La Suède qui fait machine arrière, qui remet des bons vieux manuels scolaires parce qu'elle dit que finalement, derrière le côté ludique de l'écran, on les a éloignés de la lecture à proprement parler. Est-ce que vous vous dites, bah tiens, c'est un exemple peut-être dont il faut s'inspirer ou en tout cas, c'est une alerte à prendre en compte?
Moi, je pense que le numérique, il est utile dès lors qu'il est au service de la transmission et de la pédagogie. Pour moi, c'est pas un outil. Enfin, c'est un outil, mais qui doit être toujours au service de la transmission. Mmh. Et donc, à chaque fois qu'on développe des initiatives en lien avec le numérique, on doit toujours se poser la question, est-ce que ça permet de renforcer l'apprentissage des fondamentaux, la transmission en direction des élèves? Il y a une stratégie sur le numérique éducatif qui avait été bâtie par mon prédécesseur au début de l'année 2023. J'ai souhaité, avec mes équipes, réinterroger sa stratégie. On va regarder si on fait évoluer certaines choses. Mais en tout cas, moi, ma priorité, c'est ça. C'est moins l'outil que de savoir ce qui est le plus utile pour l'apprentissage des élèves.
Le harcèlement à l'école, il y a cette décision de pouvoir bannir des réseaux sociaux un enfant qui serait harceleur. Il y a aussi l'option de les renvoyer des établissements. Vous allez rencontrer la famille de l'INSEE, je crois.
Oui, absolument, demain.
Demain.
Oui, j'ai déjà rencontré la maman de l'INSEE et Maëlys, qui était la meilleure amie de l'INSEE, qui elle-même a fait l'objet et a été victime de harcèlement à la suite du drame tragique qui s'est noué avec le suicide de l'INSEE. Et je pense que c'est très important de tirer toujours les enseignements de ces drames.
Mais très concrètement, quand on dit par exemple que l'on va bannir un enfant des réseaux sociaux, qui va vérifier? Comment est-ce que vous allez les priver de téléphone portable? Est-ce que vous allez être derrière chaque pseudo qu'il va pouvoir prendre pour renaître de ses cendres? Comment vous allez faire?
On aura besoin des plateformes. D'ailleurs, je vais les convoquer à mon ministère pour travailler avec elles sur cette question. C'est une mesure qui figure dans le projet de loi sur le numérique, qui est porté par mon collègue Jean-Noël Barrot. On va préciser tout le processus pour lequel on pourra arriver à cette peine complémentaire de bannissement des réseaux sociaux pour une durée de 6 mois à 1 an, notamment quand il y a du harcèlement, quand il y a des deepfakes, quand il y a du revenge porn. On sait que c'est un vrai problème aussi. Souvent des jeunes garçons qui demandent à des jeunes filles des photos dénudées qui ensuite les font circuler sur les réseaux sociaux, ce qui produit là aussi des drames. Bref, on sait que le numérique a une place aujourd'hui majeure dans le harcèlement et dans ce que subissent beaucoup d'élèves. Donc on doit toujours continuer à renforcer nos actions en la matière. Moi, je crois aussi beaucoup à la prévention. Il y a les mesures répressives, comme celles que je viens d'évoquer, mais je pense que l'école, elle a aussi un rôle en matière de prévention. En matière de prévention sur une culture de l'empathie à l'école. En matière de prévention aussi sur les comportements de harcèlement qu'on peut repérer en matière de signaux faibles très tôt. Il faut qu'on développe vraiment cette culture-là à l'école.
Vous en ferez une priorité?
Ah ben c'est ma priorité absolue, oui, évidemment. C'est insupportable d'avoir des élèves, et quand vous écoutez les témoignages, qui sont maltraités à l'école. Et c'est des élèves ensuite qui peuvent se retrouver en échec scolaire, parce que évidemment, quand vous êtes harcelé à l'école, quand vous êtes maltraité à l'école, vous ne pouvez pas apprendre dans de bonnes conditions. C'est profondément injuste.
Et les harceleurs, ils seront renvoyés, j'allais dire, jusqu'où, c'est-à-dire que s'ils sont renvoyés, ça veut dire qu'on va les déplacer d'une école à une autre? Ça veut dire qu'ils vont arriver dans une autre école avec peut-être d'autres cibles?
Vous faites référence à une règle qui est issue d'un décret que j'ai signé cet été, où effectivement, on dit désormais que c'est à l'élève harceleur de changer d'établissement et non à sa victime.
On comprend parfaitement. Harceler. Et comprend évidemment, ça paraît presque une évidence. Sauf que si on tire le fil malgré tout, ça veut dire que vous allez déplacer le problème et que vous allez potentiellement mettre ces enfants harceleurs face à d'autres enfants, face à de nouveaux camarades.
Je n'en suis pas certain. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura besoin d'un vrai suivi. Pourquoi j'en suis pas certain? D'abord parce qu'il y aura un suivi, y compris dans l'établissement nouveau. Ensuite, parce qu'on sait que c'est des phénomènes, et ça, les experts le disent, qui peuvent souvent être des phénomènes de meute. Vous avez un élève qui est harceleur, mais qui parfois est le fait dans un contexte, dans un environnement où il peut être encouragé, soutenu par d'autres élèves. Donc voilà, isoler le harceleur, l'élément perturbateur en le changeant d'établissement, ça peut être une solution. Mais ce n'est pas la seule. Moi, je veux qu'on aille beaucoup plus loin. On aille beaucoup plus loin sur la formation d'un certain nombre de référents dans les établissements. On a développé le programme PHARE qui fonctionne très bien.
Et sur des réactions
dans les lycées à partir de cette année.
Beaucoup plus rapides. Pourquoi vous, Gabriel Attal? Pourquoi vous maintenant? Pourquoi vous maintenant, ministre? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment, parce qu'on sait que ça fait quand même très longtemps que vous auriez espéré ce job, pourquoi maintenant?
Ça, faut poser la question au
comment
président
vous l'avez convaincu
et à la première ministre. Moi, c'est des questions, les questions d'éducation qui me passionnent. Quand on s'engage en politique, je crois qu'on le fait quand même pour chercher à bâtir une société meilleure. Et quelle meilleure manière que de bâtir une meilleure société que d'investir sur l'école? Parce que la réalité, c'est que ce qui permet de réduire les inégalités de destin, ce qui permet d'assurer l'égalité des chances, c'est quand même l'école de la République. Donc j'ai travaillé sur ces questions d'éducation en tant que député dès 2017, quand j'ai été élu. J'étais secrétaire d'État au ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse entre 2018 et 2020.
Sous Jean-Michel Blanquer.
À l'époque de Jean-Michel Blanquer. Et donc oui, c'est des sujets qui me passionnent et qui m'animent en tant que responsable politique, mais aussi en tant que citoyen. Et donc c'est une chance immense aujourd'hui d'occuper ces responsabilités.
Gabriel Attal, on l'aura bien compris, nouveau ministre de l'Éducation nationale. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Et de nous avoir donné donc ce premier bilan de la rentrée.